Bonjour, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans la commune de Lambrasse pour notre nouvelle émission Ma commune est utile. Donc je suis à côté d'Alain Gasson, notre fidèle ami, et je suis avec Michel Thérault, le maire de Lambrasse.
Bonjour.
On va commencer cette émission parce qu'il y a eu quelques petits changements. Donc vous avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça, un congrès national de la MRF. Et depuis, votre président national, M. Fournier, est devenu ministre
De la ruralité.
de la Ruralité. Que pensez-vous de cette situation? Alain.
Mais moi, je pense qu'il y a le chaud et le froid. C'est-à-dire que le froid, c'est que il va falloir qu'il fasse attention. Et est-ce qu'il aura tous les pouvoirs pour se battre pour la ruralité? J'en suis pas totalement convaincu. Mais il y a le chaud. Je connais Michel Fournier et je sais qu'il n'hésitera pas à avoir les réponses qu'il faut. Quand il sera en face des problèmes, et certainement qu'il fera des propositions. Alors, le deuxième point qui me fait dire que c'est une bonne chose, c'est qu'il est associé, il a tenu à être associé à la ministre des Territoires, qui est Françoise Gatel, qui depuis très longtemps se bat pour la ruralité, qui est une ancienne sénatrice. Et je pense qu'à tous les deux, ils peuvent essayer au moins d'infléchir certaines décisions de gouvernement par rapport à la ruralité. Maintenant, bon. Le grand responsable de ce bazar, je dis, j'ai employé le terme du général de Gaulle, qui est la chienlit, on est un peu dans une situation de chienlit, et c'est vrai que quelque part, le grand responsable, bien sûr, c'est le président de la République.
Michel, par rapport à ça?
Oui, ben moi aussi, j'ai un sentiment mitigé. Et il est certain que je suis très heureux que notre ami Michel Fournier soit ministre. C'est une belle chose pour tous les ruraux que nous sommes. Mais compte tenu de la situation, compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu du spectacle que nous montre l'Assemblée, tout ça, et compte tenu des magouilles en lieu qu'on peut constater, j'ai l'impression que Michel Fournier risque de ne pas être aussi libre qu'il a été en tant que simple président, en pouvant exprimer ses idées, en faisant des revendications claires et nettes, qui en général ont été rarement suivies entre nous. Et donc voilà. Donc c'est une bonne chose, mais c'est une moins bonne chose dans la mesure où il risque d'être point épié dans ses déclarations et dans sa façon, dans ses possibilités d'agir. D'action.
Donc vous pensez, bon, effectivement, aujourd'hui être au gouvernement, c'est accepter l'ensemble de la politique du gouvernement. Donc Michel Fournier, lui, il y va pour défendre la ruralité, défendre les communes. Et dans le budget qui est prévu, il y a quand même 4,5 milliards d'économies à faire sur le dos des collectivités locales.
Mais oui, forcément, c'est là qu'on l'attend. Et c'est vrai que quelque part, est-ce qu'il va pouvoir réussir avec. Parce que je rappelle enfin, Françoise Gatel, qui est aussi vraiment un binôme avec lui. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire infléchir le gouvernement sur ces 4 milliards et demi? J'en suis pas convaincu, étant donné que le gouvernement cherche par tous les moyens à récupérer de l'argent, et on le voit bien à travers les retraités qui aujourd'hui ont travaillé toute leur vie et on est en train d'essayer de les ponctionner. Je trouve ça énorme de faire des choses pareilles. La deuxième chose aujourd'hui qui m'inquiète, c'est par exemple jouer sur le fait que des gens sont dans le malheur pour les divorces. Quand j'entends une députée qui défend le fait que l'homme doit être assujetti à l'impôt et la femme ne le sera plus, je trouve que dans les deux cas, hein, aussi bien je défends les femmes parce que c'est normal qu'elle ne puisse pas déclarer la pension alimentaire qu'elle reçoit pour ses enfants, mais c'est pareil pour l'homme. L'homme, il a un salaire, il donne pour ses enfants, il ne donne pas pour l'État. Donc toutes ces choses-là font que Michel Fournier va se retrouver dans une situation un peu difficile, mais moi je compte sur lui parce que si je sais très bien, je connais très bien Michel, c'est un ami, je sais très bien que quand il faudra dire les choses, il va pas, entre parenthèses, se dégonfler, il va leur dire ce qu'il pense.
Michel?
Oui, mais je suis tout à fait à l'aise dans ce raisonnement-là. Mais tout à l'heure, Alain parlait de chienlit. C'est pire que ça, notre gouvernement. Moi, j'en suis peiné, j'en suis triste de voir comment nos élus réagissent. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a des députés fantoches. Nos sénateurs, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, en particulier nos sénateurs de Dordogne, c'était déjà une bonne chose. Mais que pourra-t-il, que, Michel Fournier, que pourra-t-il faire? La dette est là, il faut trouver des milliards absolument, et ils vont taper encore une fois sur les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas et ne peuvent plus se défendre, comme les plus démunis. Mais aussi les classes moyennes maintenant, qui en prennent plein à la gueule, excusez-moi. Hein. Et de plus en plus, les classes moyennes sont appauvries. Il faut éponger une dette que, excusez-moi, mais que je considère comme illégitime dès le départ, mais enfin bref, ça c'est autre chose. Parce que là, on en revient aux finances, et la finance, hein, ce qui me concerne, est la grande responsable de tous nos maux. Mais ça a été voulu par nos gouvernements. Ils voulaient que ce soit l'ultralibéralisme, on en est à l'ultralibéralisme et on voit le résultat. Les riches sont 10 fois plus riches qu'ils n'étaient il y a 6 ans et les pauvres sont 10 fois plus pauvres. Mais c'est pas, ça ne fait rien, ce n'est pas un problème.
Moi, j'aborde totalement dans ce que dit Michel et je vais vous prendre 2 exemples. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'État veut aller chercher des impôts chez des gens qui touchent des salaires qui sont, allez, je vais dire, pas misérables, mais presque. Et on a des gouvernants qui ne veulent pas, par exemple, sur certaines préconisations, aller chercher de l'argent là où il est. Alors, moi, je pose la question, et les auditeurs peuvent essayer de comprendre, quelles seraient les conséquences, par exemple, de prendre un milliard d'euros à M. Pinault alors qu'il en possède plus de 500 ? Et même peut-être davantage. Mais pour lui, c'est qu'une paille dans son budget. Alors, il ne faut pas que ça soit perpétuel, mais de temps en temps, que ces gens-là fassent un effort. Je regrette, mais M. Pinault a donné 500 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris. Je pense que s'il avait un peu de courage, il pourrait dire, je donne 1 milliard d'impôts de plus pour l'État. Et puis voilà, quel est le problème aujourd'hui? C'est que le général de Gaulle a su le faire, d'autres présidents ont su le faire, mais depuis M. Sarkozy, aujourd'hui, l'écart s'allonge au lieu de se rétrécir. Il faut que les gens qui travaillent puissent honnêtement gagner, vivre décemment de leur salaire, mais il faut aussi, il y aura toujours des riches, et il faut aussi que ces gens qui ont beaucoup d'argent donnent une quote-part sans pour cela qu'on leur enlève tout ce qu'ils possèdent.
Michel, tu voulais...
Juste une parenthèse. Quand tu dis que M. Pinault a donné 500 millions pour Notre-Dame
de Paris,
je veux bien. Mais combien, nous, sur ces 500 millions, on lui a remboursé? Nous, contribuables.
Ah, ça, c'est vrai.
66,66%.
Mais voilà, ça, c'est une excellente...
Il n'a pas donné 500 millions.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'avais oublié ça, mais c'est vrai qu'à travers le bénévolat, on le connaît bien. Alors, si on lui a rendu 66% des 500 millions...
Mais on les lui a rendus, oui, par la réduction d'impôts.
Eh bien oui. C'est là qu'on se retrouve. Les vrais démocrates se retrouvent sur ces sujets-là. Je suis entièrement d'accord avec toi, Michel.
Donc, effectivement... Il n'a pas été le seul sur cette question-là. Quand les très riches donnent, on leur rend 66%, donc c'est le contribuable, c'est le petit qui paye. Alors, moi, je suis pour, effectivement, en tant que animateur de l'émission, pour que les bénévoles, quand ils donnent au Secours Populaire 100 balles, qu'on puisse effectivement déduire de leurs impôts, parce que c'est des gens qui sont pauvres et qui font effectivement eux un véritable effort, mais des riches on devrait mettre une somme maximum, quoi. On va revenir sur des choses. Effectivement, tu parlais qu'aujourd'hui on allait taxer les plus pauvres, et donc dans vos communes vous devez en avoir quelques-uns, et aujourd'hui avec l'abattement des 10%, je prends cet aspect là parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que vous connaissez toutes les conséquences des 10% sur le contribuable?
Non, personnellement, je ne le connais pas, et je fais, hélas, comme beaucoup trop de personnes actuellement, ces 10%, bon, on les avalera comme on a avalé le reste. Mais les conséquences seront beaucoup plus importantes, sûrement, que ce qu'on veut bien faire croire.
Moi, oui, bien sûr que j'ai réfléchi à ces 10%, puisque j'en fais partie, moi-même. Hein, et puis, on est deux maires en face de toi, Gérard, et on est concernés, puisqu'on est tous les deux retraités. Mais c'est vrai que ces 10%, moi, les conséquences dessus, c'est que, bien sûr, je vais payer beaucoup plus d'impôts. je vais passer une tranche. Une tranche, pour moi, c'est important. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'avec 10%, souvent, on a des épouses qui n'ont pas de retraite, on a des petits-enfants à gâter, ou même à s'occuper. Sans les gâter, des fois, c'est une nécessité, parce que vis-à-vis de nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, ce sont des choses qui en plus, ne rentreront pas dans l'économie locale. Au lieu de ces 10%, mais au lieu d'aller acheter un pull à mon petit-fils, mais peut-être que je ne lui achèterai pas. C'est ça, les conséquences.
Donc, je vais vous donner quelques exemples, parce que je crois que c'est important, en tant que maire, que vous sachiez les conséquences que peuvent avoir ces 10%. Ces 10%, ça va, effectivement, la première chose, augmenter les impôts de tous les contribuables. Vous allez voir. Mais ça change la CSG.
Ah oui, oui, ça aussi. Oui.
Le taux de la CSG va changer. C'est-à-dire que quand vous allez gagner plus, les gens qui ne payaient pas de CSG vont en payer. Donc, ils vont payer la première tranche à 3%. D'accord ? Auquel se rajoute, à partir du moment où ils payent de la CSG, les 1% de la RDS et de la CASA. C'est-à-dire qu'ils ont 5% d'augmentation en plus des impôts. La deuxième chose qui vous concerne là directement, c'est que ça modifie le revenu fiscal de référence.
C'est ce que je dis, je saute une tranche.
Non,
c'est
vraiment autre chose. Mais le revenu fiscal de référence, c'est-à-dire une personne qui gagne 20 000 euros, avec les 10%, son revenu fiscal était 18 000. Et toutes les aides étaient basées sur 18 000, maintenant vont être basées sur 20 000. C'est-à-dire qu'on va avoir la population dans vos communes qui risque de perdre les APL et les personnes...
Les exonérations de taxes foncières et tout ça.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez là ?
Je vais employer le mot, tant pis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et c'est injuste. C'est profondément injuste. De toute façon, tu nous as parlé de ce qui concerne, puisqu'on a du personnel qui sera concerné aussi. Et c'est vrai que quelque part, c'est une échelle, quoi. C'est une échelle de grandeur. Et à partir du moment où on touche aux barreaux principaux, on va toucher aux barreaux secondaires. Et c'est certainement les barreaux secondaires qui vont faire le plus mal. C'est à travers ce que tu dis, c'est ce que je ressens. Et donc ça, quelque part, il faut qu'on se batte pour pas que ça arrive. Alors, c'est à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est à nos députés à faire le boulot, quoi. Et Michel nous disait tout à l'heure, en aparté, il a parfaitement raison. Nous, avec les maires, on est pratiquement tous, à part quelques-uns, on est des démocrates et des républicains. C'est-à-dire, hormis les extrêmes, alors les extrêmes, ils existent. Mais je trouve complètement anormal qu'au sein de l'Assemblée nationale, du Parti socialiste, Parti communiste et au-delà de LR, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un programme et sur des financements. C'est quand même c'est hors sujet pour nous, parce que comment on fonctionne, nous, dans nos communes ? Nous, il faut d'abord avoir un budget équilibré. Et il est équilibré. Deuxièmement, il faut travailler pour l'intérêt général. Donc, quelque part, dans nos listes électorales, il y a des gens de tous bords. Tout bord. Il y a même des extrêmes par moment. Mais ces extrêmes, elles sont obligées de suivre une majorité, et une majorité qui sait s'entendre sur ce qui doit se passer dans les communes. Et à travers ça, les communes, elles avancent. Et aujourd'hui, si on est apprécié de la population, c'est pour cette raison, c'est pour ce motif. Donc, quelque part, il faut dire à nos députés, arrêtez de vous chamailler. Arrêtez, faites-nous un programme, au moins un minimum, de façon que l'État puisse fonctionner. Alors, derrière ça, c'est bien beau de dire ça, mais il faut aussi que M. Macron et nos gouvernements arrêtent aussi il faut qu'ils regardent les dépenses de l'État. Aujourd'hui, l'État dépense trop d'argent, et ça, c'est clair et net.
Michel Pouf.
Oui, quoi rajouter de plus il y a trop d'injustices fiscales, pour commencer, oui. Ça, c'est évident. Et j'ai l'impression, pour abréger, pour simplifier tout ça, que... Ils n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas les Français. Ils n'aiment pas leur pays. Si vraiment ils aimaient la France, s'ils étaient patriotes, s'ils pensaient à tous ceux qui, des générations précédentes, ont œuvré pour que nous puissions passer des jours heureux et qu'on ait connu, nous, notre génération, les 30 glorieuses, eh bien, verrait les choses différemment.
Ben là, nous allons faire notre petite pause traditionnelle, musicale, donc on se retrouve dans 3 minutes.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instite. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y'a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Donc, après cette petite pause musicale, nous reprenons le débat. Donc, Alain, tu voulais dire un petit mot sur le congrès qui s'est passé à Poitiers il y a 3 semaines.
Oui, ce congrès d'abord a été une parfaite réussite, où on a eu presque 1200 maires qui sont venus. Ça a été une réussite, pourquoi ? Parce qu'on l'a mis sur un axe qui, moi, je trouve aujourd'hui, dans le moment où on est sur l'arrivée des municipales en 2026, on l'a mis sur la jeunesse et l'engagement. Et c'est très important. On a eu 100 jeunes qui sont venus s'expliquer et qui ont eu un véritable débat avec la présidente de l'Assemblée nationale et avec le président du Sénat. Et les questions qui ont fusé étaient d'une pertinence vraiment incroyable sur ce que les jeunes pensent de l'engagement. Et je pense que ça a été un congrès qui a marqué grâce à ça. Derrière ça, il y a eu beaucoup de débats sur pas mal de sujets, et en particulier sur la mobilité rurale. Moi, je suis responsable aujourd'hui de ces congrès nationaux. Moi, j'ai voulu que la mobilité soit au centre aussi de ce congrès. Et ça a débouché sur une véritable réflexion de la mobilité en milieu rural. Donc il y a eu des solutions, il y a eu des propositions et des solutions qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, je vais en citer un qui a l'air de marcher, c'est qu'on a signé un contrat avec Citroën pour la petite mobile, cette petite voiture en forme de cube qui est électrique, qui a une autonomie de 75 km et qui peut être conduite par des jeunes à partir de 14 ans. Donc ça permet à des communes de l'acheter en ayant des subventions de l'État. Donc ce sont des... Je prends l'exemple d'une commune qui en a pris deux à Chevenel, dans la Vienne. Ces deux véhicules lui sont revenus à 1 000 euros chacun. Et donc ça lui permet de la prêter à des jeunes. Alors en compensation, ces jeunes font un travail collectif pour la mairie. Mais c'est vraiment une solution pour la mobilité. Parce que de Chenevel, ils sont à 15 km de Poitiers. Ça leur permet d'aller chercher des papiers, d'aller passer le permis, d'aller tout un tas pour les études, pour tout un tas de choses. C'est une des solutions. Alors il y en a eu plein d'autres. Mais aujourd'hui, ce congrès a été une réussite grâce à ça. Et puis bien sûr avec... Les plus de 100 partenaires qui étaient présents. Donc voilà, il y a eu un débat. Pour une fois, nous n'avions pas de ministre. Et c'est ça qui a été intéressant. C'était un véritable débat entre maires ruraux, avec les jeunes et avec un avenir pour nos communes. Alors bien sûr, ça devient difficile aujourd'hui parce que beaucoup de communes rurales avec le scrutin de liste se posent la question s'ils pourront créer, avoir des listes. Moi je dis oui. Pour Paris, moi personnellement, j'ai plus de femmes qu'avant, donc ça prouve quand même que la parité, ça marche.
J'en doute. J'en doute dans les petites communes. Je crois qu'ils auront beaucoup de mal à trouver la parité. Qu'on le veuille ou non, les femmes aujourd'hui ne sont pas prêtes à s'engager comme le sont les hommes, et pour maintes raisons que je n'ai pas analysées, mais j'ai des doutes.
Mais je pense que les Français vont réagir par rapport à tout ce qui se passe. Et puis une commune n'est pas du même niveau que l'État, donc quelque part les gens, il y a beaucoup de bénévoles dans les communes, de moins en moins malheureusement. Et l'histoire de la parité, moi je vais donner un exemple, c'est que quand moi je vais chercher un homme pour lui demander d'être conseiller municipal, il regarde ça, il regarde ce que l'honneur de représenter sa commune est important pour lui. Une femme, la première question qu'elle pose, pourquoi faire? Donc ça veut dire que les femmes, elles ont beaucoup plus de pragmatisme, et c'est vrai que quelque part, elles sont beaucoup plus investies que certains hommes dans les conseils municipaux.
Michel? Oui, je veux juste ajouter quand même que nos technocrates, parce que ce ne sont pas les élus qui ont préparé tout ça, ce sont nos technocrates qui ont préparé. Et ça entre dans une logique qui est en place depuis de nombreuses années, ça entre dans une logique que l'on retrouve écrite dans la loi NOTRe, c'est l'élimination des petites communes. Et à partir de là, ils ont raté le coche pour les fusions de communes. C'est un moyen de faire en sorte que certaines communes se retrouvent au pied du mur et n'aient pas le quota pour avoir un conseil municipal, et elles seront rayées des tablettes. Les 36 000 communes que nous avons connues, elles vivent leurs dernières années, ça j'en suis convaincu. Alors c'est du complotisme que je fais peut-être, mais les complotistes, bien souvent, ils ont une vision de l'avenir qui n'est pas toujours fausse.
J'en reviens un petit peu au début. On parlait tout à l'heure de 4,5 milliards de subventions en moins pour les communes. Je crois que aussi ça va être un des éléments qui va faire que ça va être très difficile pour les communes de pouvoir gérer sans augmenter les impôts, entre autres.
Ben forcément, 4,5 milliards, ça veut dire que nous aussi, on va être particulièrement impactés. Bon, les départements le sont davantage que nous, la région le sera aussi, mais les communes également, et avec des proportions... alors, on sait que je peux rejoindre Michel sur le souhait de nos technocrates et de nos gouvernants. C'est que ce qui m'inquiète, c'est qu'ils veulent modifier le terme de la DETR, de la dotation des équipements des territoires ruraux. Ils veulent appeler ça autrement, mais ça, c'est quelque chose qu'ils veulent cacher. On ne le sait pas, mais on se doute qu'il y a un piège là-dedans. Ça voudra dire que dans la nouvelle composition des subventions de l'État, elles seront amoindries, puisqu'il faut faire des économies et aller chercher 45 millions d'euros de moins. 4 milliards et demi, excusez-moi, je me perds avec tous ces milliards. Mais bon, c'est vrai que quelque part, il faut faire attention. Alors, vous savez que je rejoins pas totalement Michel, c'est que bon, il faut quand même pas prendre les maires pour des neuneux, et à un certain moment, on va se ressaisir, et on s'est déjà ressaisi à travers beaucoup d'événements, parce que chaque fois qu'il y a eu des problèmes nationaux, c'est toujours nous qui sommes là, comme je dis, au chevet du malade, et qui arrivons à guérir le malade, ou au moins le soigner. Je prends l'exemple des cahiers de doléances après les gilets jaunes, je prends pour le Covid, toutes ces choses-là font que on est l'élément de proximité des communes, des populations, et c'est pour ça que j'ai espoir de garder ces communes rurales. Maintenant, on verra, l'avenir nous dira ce qu'il en est.
C'est un rêveur, Alain.
Je dis que c'est un rêveur, oui. Parce que, de toute façon, ce qui est écrit, plus ou moins, c'est, que tu le veuilles ou non, Alain, la disparition de toutes nos petites communes. Le MEDEF avait son congrès récemment aussi, et ça a été une de leurs revendications, et ils ont appuyé bien fort là-dessus qu'il fallait réduire les communes, je ne sais pas, moins de 10 000 ou quelque chose comme ça, de faire comme en Allemagne. Or, on a une spécificité qui nous est propre, qu'on la garde. Tu parles de proximité auprès de la population, c'est une évidence, mais on veut la casser, cette proximité. Il ne faut plus qu'il y ait cette proximité auprès de la population. Il faut se retourner derrière l'informatique.
Oui, je crois que, bon, effectivement, aujourd'hui, les communes, moi j'ai vu certains coins de la Dordogne, autour de Mareuil, par exemple, machin, il y a eu 7 communes qui ont fermé leurs écoles. Donc ça pose des problèmes pour les enfants. Mais à moyen terme, ça va poser d'autres problèmes pour les populations les plus âgées. Parce que si les jeunes ne s'installent pas dans une commune parce qu'il n'y a pas d'école, les communes, il ne restera plus que nos anciens qui pourront, eux, plus se déplacer. Les problèmes de mobilité, les problèmes d'aide sociale, c'est tout un enchevêtrement derrière qu'il va falloir étudier. Et ça va nous tomber dans les années à venir, quoi, dans le prochain mandat.
Ben c'est là qu'on a un rôle à jouer. Alors, je suis peut-être un rêveur, c'est possible, mais ce qu'il y a de sûr, je me bats, moi, pour que la douleur soit moins grande. Et c'est vrai que quelque part, alors, je ne dis pas, Michel Thérault est un vieux sage, vieux par l'âge, mais moi, j'ai presque le même âge que lui. Alors, donc, on est deux vieux sages, disons que lui est plus sage que moi. Mais quelque part, c'est vrai qu'il y aura des communes qui vont disparaître naturellement. Et c'est vrai que les problèmes de l'école aujourd'hui sont fréquents. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand un département comme la Dordogne perd 1000 enfants par an? Il faut se ressaisir, il faut trouver des solutions. Alors, il vaut mieux que les solutions, elles viennent de nous, qu'elles viennent de nos technocrates. Ça, c'est une évidence. C'est là-dessus que je me bats, moi. Et je pense que c'est là-dessus que Michel Fournier va se battre. C'est-à-dire, je préfère me battre en étant dans l'interne que de critiquer dans l'externe. Voilà un petit peu comme je vois les choses. Et c'est vrai que ça atténuera certainement toutes les difficultés qu'on aura dans l'avenir. Mais c'est vrai que je rejoins totalement Michel, c'est que l'avenir n'est pas si rose que ça.
Oui, et au niveau des difficultés qu'on rencontre dans nos communes, c'est que vous parlez de 4,5 milliards cette année de réduction. Ok, mais c'est après combien de milliards depuis que Hollande a commencé à nous imposer le remboursement de la dette? Ça fait de sacrées sommes. Hein. Si tu refais 10 ans en arrière, tu verras ce qu'on a perdu comme pognon pour investir sur nos communes. Et ça va continuer, malheureusement. Ça va continuer. Le département a moins de ressources, c'est une évidence. Donc, les communes en ont moins de la part du département, moins de la part de l'État. Demain, il n'y aura plus que nos administrés pour apporter de la trésorerie aux communes. Et ça, c'est impossible après les augmentations, les réajustements des bases, tout ça. Comment veux-tu augmenter les impôts? C'est impossible. On ne peut pas leur faire les poches.
Alain? Bon, on va finir sur une note optimiste. C'est vrai que là, on a parlé des sujets vraiment qui fâchent. Et c'est vrai que quelque part, on n'est pas dans la même dimension que sont nos parlementaires, mais où c'est que je peux que rejoindre Michel, c'est que ces gens-là, ils sont hors sol. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la proximité, ils ne comprennent pas ce que les Français demandent. Et on le voit bien à travers chaque fois que les partis politiques... Alors les extrêmes en jouent, bien sûr les extrêmes en jouent, mais c'est vrai que quelque part, si je dois avoir un mot de la fin... C'est de dire un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il y ait un gouvernement qui écoute les Français. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils ne sont plus écoutés. On les ignore complètement.
Et surtout les retraités, on les coupe.
Mais les retraités avec. Mais bon, il n'y a pas que les retraités.
Elle n'a rien à foutre des Français. Et c'est elle qui tient les ficelles, entre autres, par l'état profond qui nous gère. Mais bon, bref, toujours est-il que les mesures mises en place par nos technocrates, elles avancent petit à petit, comme un rouleau compresseur, en se foutant de la vie des Français, en se foutant de la vie de ceux qui pensent pouvoir changer quelque chose. On l'a vu pour le SMD3, excusez-moi de parler du SMD3, on l'a vu pour l'EDF, toi qui es un ancien de l'EDF, T'as vu comment ils nous ont cassé l'EDF ?
Oui.
Hein ? T'as vu combien tant de personnes ont été au chômage, ont été en cessation d'activité à cause du prix de l'électricité ? Mais demain, ce qui se prépare, c'est l'eau. L'eau va être privatisée comme l'électricité actuellement. L'eau va être distribuée, je te fous mon billet, on ne sera plus là pour le voir, mais l'eau, c'est pareil. Ça existe déjà dans les pays d'Amérique du Sud, où l'eau est privatisée. Et les pauvres agriculteurs, il vaut mieux qu'ils achètent du Coca-Cola pour arroser leur tournesol plutôt que de pomper l'eau du robinet. Ça coûte moins cher. C'est ce qui se passe avec l'EDF, encore une fois. Rappelle-toi, il y a quelques années, on nous a parlé des barrages. Et puis, il y a eu un tollé. Et puis, on ne parle plus des barrages. Mais en sous-main, le processus continue pour la privatisation des barrages. Et tu verras qu'un jour, on nous privatisera les barrages. Et c'est pas loin, ça.
C'est pas l'optimisme, ça. Mais je pense qu'effectivement, on aura le débat sur une prochaine émission sur ces questions-là. Je pense que par rapport à toutes les mesures qui sont prises effectivement aujourd'hui par le gouvernement sur les retraités, parce que je pense que c'est important, parce que dans nos communes rurales, on a malheureusement beaucoup de retraités qui vont être impactés. Avec d'autre côté, les communes qui vont être aussi impactées financièrement, ça va être très difficile d'être proche de nos concitoyens dans les années à venir, si on n'a pas de la jeunesse qui revient dans nos communes pour pouvoir dynamiser un petit peu les choses. Donc, ben, je vous remercie.
Que des irréductibles comme nous pour être auprès de la population.
Donc, je vous remercie tous les deux pour l'émission et on souhaite à tous nos auditeurs une bonne fin de journée et à bientôt.
J'ai quelque chose à rajouter à nos auditeurs. Eux aussi, ils ont un rôle important à jouer. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à aller voir leurs sénateurs et surtout leurs députés et leur dire attention, messieurs, on vous surveille.
Juste un petit point pour finir. Effectivement, tu as raison. Je pense qu'en tant qu'élu, ce qui serait bien, c'est de lancer un appel pour que le gouvernement abandonne son projet de financement des radios libres, parce que bon, ils veulent diminuer de 44% les budgets des radios, dont la nôtre.
Bon, merci.
Merci beaucoup.